France Musique. Muraro au piano. Roger Muraro.
Chopin avait des mains en caoutchouc et je n'ai pas les mains en caoutchouc. Ni d'ailleurs le génie sonore de Chopin. Et le travail de sa musique, je peux vous le dire, ne se fait pas toujours dans la joie. Mais enfin quoi ? Serait-il normal de jouer Chopin sans cette inquiétude qui a rongé l'auteur toute sa vie ? Et se permettre de le jouer simplement parce que c'est beau et que cela plaît ? Comment retraduire toutes les épreuves de son âme, se plier aux tournures innovantes du pianiste-compositeur, alors que ma main se rebelle aux positions nouvelles de son œuvre ?
Parce qu'il me semblait qu'il y avait des choses pas mal dedans, celui-là.
Pensez-vous ?
Non, en tout cas, c'est excitant, écoutez.
Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, il y avait encore discussion sur l'emploi du pouce, un doigt fort et inexpressif. Chopin va s'en emparer et lui rendre justice. Il devient le doigt le plus mouvant de la main. Comment transposer ma pensée contemporaine dans la modernité du 19e siècle où il fallait plus de 30 heures pour se rendre de Paris à Nohant, alors qu'il n'en faut que 14 aujourd'hui pour se rendre à Tokyo. Tenter d'approcher l'évanescence, la fierté de cette musique, cette nonchalance supérieure quand on n'est pas aristocrate. Mais ce qu'a laissé Chopin à la musique est universel. La preuve, souvenez-vous des chansons de Gainsbourg. Et connaissez-vous cette version du quatrième prélude de Chopin ? Ce prélude qu'a choisi d'adapter Jimmy Page, le guitariste du groupe Led Zeppelin. Jimmy Page qui revenait sur la scène à New York en 1983 avec cette adaptation.
Thank you.
Chopin nous rappelle surtout l'importance de la notion d'artiste, d'acteur du son, d'improvisateur. Je parle de cette écoute aventureuse lors d'un concert où l'interprète se laisse porter par un texte dont il a exploré tous les recoins pour en faire sien et le livrer comme si c'était son œuvre. L'improvisation lors d'une interprétation, c'est la création immédiate, c'est un geste artistique indéfinissable, un instant d'absolu, c'est le rempart à la bêtise musicale. C'est le rempart au rabâchage.
On ne pourra pas le garder en entier, bien sûr. D'abord, c'est trop long, et puis j'ai fait une erreur de mémoire.
L'improvisation, c'est ce que nous devons trouver sans chercher. Nous venons d'entendre la mazurka en sol mineur par l'immense Arthur Rubinstein. Robert Schumann découvre Frédéric Chopin.
Chaque compositeur offre aux yeux du lecteur une physionomie de notes qui lui est propre. Beethoven a une autre apparence que Mozart sur le papier, un peu comme la prose de Jean-Paul a un aspect différent de celle de Goethe. Mais ici, je me figurais voir s'ouvrir étrangement devant moi des yeux absolument inconnus, des yeux de fleurs, des yeux de basilic, des yeux de paon, des yeux de jeune fille. À plusieurs endroits, cela devenait plus clair. Je croyais apercevoir le « Lacci darem la mano » de Mozart au travers de 100 accords entrelacés. Les porello semblaient réellement cligner des yeux et Don Juan volait devant moi en manteau blanc. « Eh bien, joue !» opina Florestan. Eusèbe consentit, et, serré dans un coin de fenêtre, nous nous mîmes à écouter. Eusèbe joua comme d'inspiration et fit défiler d'innombrables personnages revêtus de la vie la plus colorée. Toute l'approbation de Florestan ne consista, à vrai dire, sauf un sourire de bonheur, en autre chose que ses seules paroles, que les variations pourraient bien être de Beethoven ou d'un Franz Schubert, si du moins ceux-ci avaient été des virtuoses pour le piano. Mais lorsqu'il alla tourner la page du titre, il ne lut que ceci, La ci darem la mano, varié pour le pianoforte avec accompagnement d'orchestre par Frédéric Chopin, œuvre 2. Sur quoi, nous nous écriâmes stupéfaits, oui, voilà qu'il nous est revenu encore une fois quelque chose de parfait, Chopin.
Chopin jouait peu. Il était à l'opposé de l'époque que nous vivons. Par exemple, des concerts sur le net, dans les supermarchés ou en haut de la tour Eiffel, où, soit dit en passant, on convoque discrètement une caméra témoin. La musique, ce n'est pas exister coûte que coûte. La musique, c'est vivre, c'est douter. Et avec ces frémissements dont Chopin a été l'un des plus profonds transmetteurs. La notion d'artiste a tant évolué que tout le monde est catalogué d'artiste aujourd'hui, oubliant que peu sont de vrais créateurs. Et nous, mesdames et messieurs les interprètes, gardons-nous assez à l'esprit que nous n'aurons jamais rien apporté d'autre qu'un plaisir éphémère. Sommes-nous des artistes ? Nous usons de l'expression artistique, nous la faisons vivre. Il ne s'agit pas de minimiser notre rôle de recréateur, doué peut-être, mais c'est vrai, quelle noblesse dans notre abnégation, dans notre désir d'artisan sensible qui veut s'approcher, toucher du doigt par moments l'indicible beauté de la création d'un génie.
Thank you.
Nous écoutions un extrait de l'Adagio du concerto en fa mineur par Rubinstein et Ormandy à la tête du Philadelphia Symphony Orchestra. Il y a peu, j'ai appris que Chopin avait un talent rare pour les mimiques et la caricature. Il avait la faculté de transformer son visage en mimant les attitudes pontifiantes et maniérées de certains collègues sur scène. Il jouait alors du piano d'une façon échevelée et avec des gestes extravagants, ce qu'il appelait aller à la chasse aux pigeons. Son sens de l'humour, de la dérision, usait parfois d'une ironie macabre. J'anticiperai un peu en disant que cette faculté de travestir son apparence, sa personnalité caméléon, évolue entre drame et joie, de l'agitation à la plus grande sérénité, de la mélancolie à la vivacité. Ces sautes d'humeur se manifestent avec évidence dans les préludes opus 28. Le caméléon doit faire face au dur problème de fixer sur le papier à musique sa pensée toujours mouvante. Quel était le vrai visage de Chopin? Quel peintre ou photographe aurait pu cerner les reflets de ces états d'âme si changeants? Nous entendions les préludes numéro 7 et 8 de l'opus 28, interprétés par Eliane Richepin. Né à Zelazowa Wela, dans la campagne de Varsovie, Frédéric Chopin dira toujours « Je suis un vrai mazovien ». En ce début du XIXe siècle, la poésie nationale polonaise est le porte-parole d'une nation blessée.
Extrait du poème « Marilla ».
Adam Mickiewicz, « Mon âme est incarnée dans ma patrie ».
Sonne 1, 2, 3 coups. Déjà il est minuit. Tout autour un silence sourd. Seul le vent gronde contre les murs du cloître et j'entends les aboiements des chiens. et froid. Elle n'était pas effrayante, cette heure, quand les cieux étaient plus cléments. Que de doux moments elle me rappelle. Assez. Tout cela a disparu pour toujours. Parfois, quand de douces illusions m'envahissent, je vois ma bien-aimée ou mes frères. Je sursaute, je regarde. Seul sur le mur court l'ombre de ma propre silhouette.
C'est l'été sur France Musique.
Je ne cesse de faire entendre des conduits. C'est dans ce sens-là que ça va le chercher.
Roger Muraro.
Des ombres. Des ombres qui passent.
Chopin est un jeune homme mince, délicat, au visage mélancolique. L'esprit domine ce corps fragile. Sa musique, que certains ont pu qualifier de malsaine, tant elle dévoilait une profonde intimité, touchant à l'onanisme musical, sa musique retraduit tous ses méandres égocentrés. Sa tristesse, c'est au piano. Ses rêves, ses amitiés troubles ou ses amours, c'est au piano. La vie s'écoule par ses mains. Chacun de nous peut se reconnaître dans la force de son intimité. Titus Wojciechowski, beau et solide gaillard, mécène de l'art polonais, activiste politique, son ami trouble et confident. Tu ne peux imaginer combien Varsovie me semble triste. Oh, qu'il est triste de n'avoir personne avec qui partager ses douleurs et ses joies, de ne pouvoir s'épancher sur un autre cœur. Tu sais ce que je veux dire. Maintes fois, je confie à mon piano ce que je voudrais confier à toi. C'était Claudio Rao qui était l'interprète de ce nocturne en fa majeur de Chopin. C'est l'exil, loin de son pays, qui fera vibrer avec toute sa force sa fibre patriotique. Pologne et musique sont indissociables de l'âme de Chopin. Chopin fera ses adieux à Varsovie avec le concerto en mi mineur, le 11 octobre 1830. À l'heure du départ, le 1er novembre, ses amis lui offrent une coupe en argent remplie de la terre de Pologne. « Je suis convaincu que je quitte Varsovie pour n'y point revenir et que je dis un éternel adieu à mon pays. » La mélancolie l'étreint pour ne jamais plus le quitter. Cette mazurka en mi mineur, pleine de nostalgie, était interprétée par Arthur Rubinstein. Paris. Jamais une autre époque dans l'histoire de l'art connaîtra une telle explosion de créativité, de rivalité, d'émulation, d'intrigues et séduction. Liszt est déjà célèbre et adulé. Habeneck dirige les symphonies de Beethoven. Paganini ébloui par ses pizzicati et trilles du diable. Et le bel canto s'en donne à cœur joie avec la Malibran, la Pasta, le ténor Rubini. Les puritains de Bellini sont à l'affiche. À cette époque, Frédéric Chopin rencontre Kalkbrenner, un personnage incontournable du piano. Comprenant vite qu'il avait face à lui un rival dangereux, Kalkbrenner veut prendre Chopin sous sa coupe, lui suggérant fortement de prendre des leçons selon sa méthode pendant 3 ans avant de se lancer dans la carrière. Tout d'abord intimidé, Chopin revient à la raison. Non, il ne détruira pas en moi cette audacieuse, j'en conviens, mais noble aspiration de me créer un monde nouveau. Le musicologue et critique François-Joseph Fétis nous parle de la nouveauté des idées mélodiques, des modulations. Il y a de l'âme dans ses chants, de la fantaisie dans ses traits, qu'il semble parfois entendre une improvisation plutôt que de la musique écrite. Le sentiment de l'improvisation sur une musique écrite. Et un élève de Chopin nous dit aussi que c'était un spectacle étonnant de voir une de ses petites mains s'étendre et couvrir un tiers du clavier. C'était comme la bouche d'un serpent qui va s'engloutir un lapin. En réalité, Chopin semblait être en caoutchouc. J'en viens à l'étude opus 10 numéro 11, entièrement en larges accords arpégés, qui peut illustrer la souplesse de la main de Chopin et le sentiment d'improvisation. Lors des épreuves éliminatoires du concours Tchaïkovski à Moscou en 86, je devais jouer justement cette étude. Elle est ravissante, elle est tout en délicats et larges accords arpégés. Elle ne dure que 3 minutes, mais le motif principal revient sans cesse avec des modulations différentes. Et bien sûr, il n'est pas question de jouer chaque tournure de phrase de la même manière. J'avais donc organisé mon discours, un petit ralenti à tel endroit, une nuance plus subtile ou plus soutenue à tel autre, un contre-champ plus souligné, enfin, tout ce que pouvait me suggérer le texte de Chopin pour donner vie à une interprétation. Mais voilà, trac, salle Tchaïkovski archibondée, dès le départ, j'ai modifié la nuance établie. Je ne vous raconte pas ce qui s'est passé dans mon cerveau pour tout de suite oublier tout ce que j'avais établi et me laisser porter par l'instant musical afin de jouer avec la musique de Chopin. C'était Samson François qui jouait cette étude opus 10 numéro 11. Et dans le genre d'anecdote plus drôle et encore bien plus dérangeante, j'ai effectué une tournée dans l'ex-URSS. Les conditions étaient très mauvaises, les restaurants étaient inaccessibles, je ne mangeais pas, les voyages étaient incessants en train de nuit. Et à l'un des derniers concerts de cette tournée, je devais jouer les quatre ballades de Chopin suivies d'un livre entier des préludes de Debussy. Et tout ça sur un piano Kardeke Blüthner, qui avait célébré le fameux Octobre Rouge dans la salle du peuple. J'étais un zombie, si fatigué que je ne me souviens même pas avoir joué les trois premières ballades. En revanche, la quatrième ballade en fa mineur m'a brusquement réveillé. La touche fa dans le grave ne remontait pas. La mécanique était grippée par l'humidité. Il m'a fallu jouer cette basse une octave plus bas avant de réaliser que je pouvais sauver la situation par le petit déplacement latéral du clavier grâce à l'action de la pédale de sourdine. Car le clavier se dépasse un tout petit peu et ça débloquait le mécanisme. Et même là, mais pour d'autres motifs, j'ai dû improviser avec la musique de Chopin. En 1835, Chopin rencontre Vincenzo Bellini, peu de temps avant la mort du jeune Italien emporté par une dysenterie. Il entend les Puritains composés pour le théâtre italien de Paris. On parle d'une rencontre déterminante pour Chopin, rencontre avec l'italianisme, les fioritures, la souplesse du beau chant de Bellini. Mais ceci n'est qu'un aspect de son œuvre. Dans ses ballades, ses scherzo polonaises, l'âme slave est bien présente et l'écriture allie les deux cultures slaves et italiennes avec un bonheur inégalé au piano. Pour avoir travaillé et joué les concertos de Chopin, je peux dire le grand bonheur des pianistes d'avoir un opéra au piano, tant certaines courbes musicales nous offrent l'occasion de roucouler. Le terme ne doit pas être mal interprété. Vraiment, il s'agit de vocalises, des déploiements de gorge à la virtuosité élégante qui révèlent un piano chantant. Pourtant, le polonais est bien là, présent, et d'une sensibilité qui évolue dans le cadre d'une rythmique cambrée. Chopin nous dit « Un mauvais phrasé, c'est comme quelqu'un qui réciterait, dans une langue qu'il ignore, un discours péniblement appris par cœur, et ceci non seulement sans observer la quantité naturelle des syllabes, mais même en s'arrêtant au milieu des mots. De même, son phrasé barbare, le pseudo-musicien révèle que la musique n'est pas sa langue maternelle, mais un idiome qui lui est étranger, incompréhensible. Aussi lui faut-il complètement renoncer, tout comme l'orateur, à exercer par son discours un effet quelconque sur l'auditeur. Ne jouez pas par trop petites phrases, ne morcelez pas l'idée musicale, mais portez-la d'un large souffle. »
C'est pas un truc qu'on joue en concert, ça on joue en bis, on joue pas au milieu comme ça.
C'est l'été sur France Musique. Muraro au piano. Roger Muraro.
Schumann au sujet de Chopin. Le sort en fit un Polonais. Heureusement pour lui, l'Allemagne ne l'accueillit point chaleureusement. Son génie l'emporta vers une des capitales du monde, où il put librement composer et exhaler sa colère en toute liberté. Car si le puissant autocrate du Nord savait quel ennemi dangereux le menace dans les œuvres de Chopin, dans les mélodies si simples de ses mazurkas, il interdirait sa musique. Les œuvres de Chopin sont des canons cachés sous des fleurs. Dans ses origines, dans les malheurs de sa patrie, se trouvent les raisons de ses qualités et de ses défauts. Les premières œuvres de Chopin portent ce caractère aigu de nationalisme. L'œuvre d'art exige davantage. L'intérêt même du sol d'où l'on est doit être sacrifié à l'intérêt général, humain. Dans ses œuvres nouvelles, la physionomie trop particulière du Sarmate s'estompe et son expression peu à peu s'élèvera à cette expression universelle, idéale, dont les Grecs, depuis si longtemps, sont les modèles, si bien que nous finissons toujours, tout en suivant une voie différente, par nous retrouver nous-mêmes dans Mozart.
Chopin et Liszt auraient pu être rivaux, ils ne se défièrent qu'élégamment. Cependant, Chopin dut envier la vigueur du lion. « Je ne suis pas propre à donner des concerts, la foule m'intimide, je me sens asphyxié par ses haleines précipitées, paralysé par ses regards curieux, muet devant ses visages étrangers. Mais vous, vous y êtes destiné, car quand vous ne gagnez pas votre public, vous avez de quoi l'assommer. » Claudio Rao nous jouait la première étude transcendante de Franz Liszt. Les études opus 10 de Chopin ont été composées entre 1829 et 1833. Elles sont dédiées à son ami Franz Liszt. Et Chopin nous donne des exercices au but technique clairement affiché. Bon, il ne s'agit pas seulement d'exercices. La grande difficulté réside dans la poésie qui est indissociable du procédé technique. Dans la dernière étude, opus 10, numéro 12, la dite révolutionnaire, au-delà du propos dramatique immédiatement prenant, imaginons le choc qu'a provoqué cette étude en son temps, ne serait-ce que par le premier accord de la main droite, agressif, dissonant. C'est presque comme un point levé. Et si Chopin, selon ses termes, n'aimait pas les pianos qui aboyaient, cet accord traduit bien un cri. Une entrée dans le vif de la chair, et sur un piano aux sonorités plus faibles, plus grêles que ceux d'aujourd'hui, le Pleyel de 1830, justement, ses limites devaient rendre plus puissante encore l'expression de cette révolte où gronde la main gauche. Quant à moi, c'est presque une étude thérapeutique. Je l'avais joué pour un concours d'entrée au conservatoire, pas mal d'ailleurs. Mais voilà, je la jouais avec les moyens du moment, une petite raideur par-ci par-là, on fonce, on y arrive, un peu tendu à la fin, mais bon, les muscles de la jeunesse résistent. Aujourd'hui, et puis je dois le dire, surtout après un fâcheux accident qui m'a fracturé la tête humérale gauche, cet accident qui a changé mon axe, les points d'appui pour le transfert du poids sur le clavier, bref, il m'a fallu réinstaller un équilibre. Bon, c'est un calvaire. Parce que en dehors de cet accident, il faut lutter contre la mémoire imprimée dans le cerveau, dans les cellules, la mémoire de ces réflexes appris dans ma jeunesse. Alors voilà, c'est ma gymnastique. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je crois que je ne suis pas le seul. Je discutais de ce propos avec un pianiste d'un âge assez avancé et qui me racontait que lui-même a eu aussi beaucoup de mal à reprendre le premier mouvement de la sonate pathétique de Beethoven avec ses octaves. Ces octaves qui sont si fatigantes à la main gauche. Alors quand il était jeune, ma foi, c'est pareil, il pouvait faire ses octaves brisées sans même se poser la question. Et puis 40 années après, eh bien, quand il a fallu réfléchir à comment les faire, il ne pouvait plus. Bref, pour moi, aujourd'hui, cette étude de Chopin va au-delà, bien entendu, de l'exercice thérapeutique. Et je vous la livre tout de même, en l'état, je dirais, car cette œuvre reste un pur chef-d'œuvre. Et Schumann a souligné la force et la beauté de cette étude par ces quelques mots. « Chapeau bas, messieurs, voici un génie. » Et je joue.
Qu'est-ce que ça donnait celle-ci ?
On le sait, Chopin n'aimait pas jouer dans les grandes salles. Il n'aimait que les salons avec leur société restreinte et choisie. D'ailleurs, Georges Sand disait bien, la préparation et l'angoisse d'un seul concert en une saison à Paris l'épuisaient. Une tradition orale nous rapporte que Chopin, dans l'intimité, au moment les plus forts de l'expression de l'œuvre qu'il interprétait, Chopin jouait ses points culminants dans une nuance douce et piano, tout en écoute intérieure. L'atmosphère de la Barcarolle opus 60 s'installe par une délicate ondulation de la main gauche. J'attire l'attention des pianistes, regardez très attentivement la pédale que Chopin a notée. Elle va de là à là, sans pédale pour les doubles croches, reprise de la pédale sur le la dièse, pour avoir un accord complet. La pédale est à cheval sur la fin et le début de la mesure suivante. C'est extrêmement précis et extrêmement rare, et même assez perturbant, parce qu'on a l'habitude de foutre la pédale sur le temps, d'une manière très bourgeoise, là pas du tout. La pédale d'ailleurs chez Chopin, la pédale de résonance devient un partenaire, c'est presque comme une troisième main, un troisième moyen d'expression. Thank you. La partie centrale de cette barcarolle est plus mouvante, plus inquiète. Elle nous amène à une séquence au rythme brève, longue, brève, longue, brève, longue. Et cette partie est suivie d'une merveilleuse petite litanie harmonique. Je cite ce mot que je trouve très beau, parce que c'est un mot qui a été, au fond, inventé par Olivier Messiaen. Cette litanie harmonique consiste en fait à ceci. Quatre notes qu'on répète. Et Chopin, on fait ça. C'est une telle subtilité. Et par des chemins harmoniques tout à fait nouveaux, Chopin nous amène au point le plus important, je dirais, à la page la plus riche et la plus émouvante de cette barcarolle d'abord, et peut-être même pour moi de la littérature pianistique. Chopin arrive dans sa coda en posant une basse en fa dièse. Ce passage où on entend tous ces chromatismes à l'intérieur, tous ces contrepoints, ce dialogue, ce duo aussi, puisque la partie supérieure entonne, je dirais, une mélopée qui est reprise par le pouce en canon. Ce passage-là, c'est ce passage-là que j'imagine, mais vraiment très bien joué par Chopin, extrêmement pianissimo, pour pouvoir entendre toutes ces subtilités. Tous ces frottements harmoniques vont nous conduire au fond à une fin absolument merveilleuse, une fin diaprée par une volute improvisée à la main droite. Il émane de cette barcarolle un érotisme fort et à la fois très pur. On écoute Dino Lepati dans l'interprétation légendaire de cette barcarolle. Thank you. Lipati était l'interprète de cette barcarolle opus 60 de Chopin.
Muraro au piano. C'est l'été sur France Musique. Roger Muraro.
Alors, et un des aspects de la musique de Chopin est son rapport au rythme, le tempo rubato. Rubato, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois interrompu, souple, c'est-à-dire qu'on peut presser, on ralentit bien entendu, parce que si on presse et qu'on ne rétablit pas l'équilibre par un petit ralentissement, à ce moment-là, il n'y a plus de mesure du tout. Et l'un des aspects les plus esthétiques, aristocratiques de ce tempo rubato trouve une forme d'équivalence dans la sprezzatura, une notion qui s'établit au commencement du XVIe siècle en Italie. Manière d'être, de penser, une nonchalance qui se veut naturelle dans quelque sujet que ce soit, un habillement soigneusement négligé, une parole sophistiquée qui vient comme ça, naturellement, un art de cacher l'artifice, comme si l'art ne semblait pas en être. Cette nonchalance, synonyme de noblesse, est évidemment à l'opposé de l'abandon. C'est la clairvoyance absolue, sans donner le sentiment de l'attention. Sprezzatura en musique, c'est peut-être la manière d'être face à son piano, de jouer librement quelle que soit la difficulté, sans montrer l'effort. D'ailleurs, Chopin disait toujours « jouez facilement ». La mesure, on envole un peu de son temps qu'on lui restitue un peu plus loin, comme l'on parle en suspendant son verbe, et on reprend le tempo de la narration sans avoir voulu préméditer cette souplesse. C'est au fond une improvisation supérieure. Un témoignage parmi ses élèves. Chopin demandait souvent qu'en même temps, il y eût dans la partie accompagnante rigoureux maintien du mouvement et dans la partie chantante liberté d'expression comportant altération du temps. C'est très faisable, on avance, on est en retard, les deux mains ne sont pas en valeur, il se fait des compensations qui rétablissent l'ensemble. Chers amis, ne tournons pas autour du pot, je suis incapable de faire ce que ce témoignage d'élève de Chopin nous suggère, me suggère. C'est-à-dire que si la main gauche doit conserver un rythme égal et que la main droite au-dessus doit chanter librement, presse et avance, cela nous suggère tout simplement de ne pas jouer les mains ensemble. Alors ça ferait quoi ? C'est épouvantable. On s'expose, je dirais, enfin moi je m'exposerais en tout cas au danger d'un goût vraiment extrêmement douteux. Tout réside dans l'art de suspendre la voix de la partie de soprano et la main gauche à ce moment-là. Je pense qu'au fond ce qui compte le plus, ça n'est pas tant l'intérieur du temps. Le temps doit tomber en place. Mais que l'intérieur peut très bien faire ça. Ou. Mais les basses tombent toujours au même moment, ce qui fait que. Ou alors. Tempo rubato, cette aisance, cette liberté, n'est en fait que le synonyme d'un rythme extrêmement naturel. Et pour avoir un rythme extrêmement naturel, ce doux balancement à 6/8 de ce nocturne, eh bien, pour savoir, pour sentir cette liberté, il faut finalement un rythme d'enfer. Et Chopin, qui en rajoute en disant, au fond, la dernière chose, c'est la simplicité. Après avoir épuisé toutes les difficultés, après avoir joué une immense quantité de notes et de notes, c'est la simplicité qui sort avec tout son charme, comme le dernier sceau de l'art. Thank you. Alfred Cortot nous a joué le Nocturne opus 9 numéro 2 en bémol majeur. Mais les trois temps de la mazurka, eux aussi, sont inégaux et ont une interaction indéfinissable. Ces petits tableaux de chevalet ont provoqué des réactions très amusantes. Meyerbeer entre sans se faire annoncer, un jour, dans le salon de Chopin, alors qu'un élève jouait la mazurka en ut majeur. Meyerbeer prend un siège, Chopin m'ordonne de continuer, mais c'est une mesure à 2/4, dit Meyerbeer. Chopin le nia, me fait répéter le morceau et frappe la mesure sur le piano. Ses yeux s'enflamment. De noir, répétait Meyerbeer avec calme. Mais si j'ai vu une seule fois Chopin en colère, ce fut à ce moment. C'était magnifique de voir comment le rouge colorait ses joues pâles. « Ce sont trois noirs, dit-il à voix haute, lui qui parlait toujours si bas. « Donnez-moi cela pour un ballet de mon opéra, et je vous le prouverai, réplique Meyerbeer. » Chopin criait presque. « Ce sont trois noirs !» Il se mit au piano. Il joua la mazurka plusieurs fois en comptant à haute voix, marquant la mesure de son pied. Il était hors de lui. Mais cela ne servait à rien. Meyerbeer insistait sur deux noirs. Ils se quittèrent en colère. Chopin disparut dans son cabinet sans plus s'occuper de moi. Cette scène n'avait duré que quelques minutes. C'était inattendu. Nous écoutions la mazurka opus 56 numéro 2 au clavecin par Wanda Landowska.
France Musique.
Après donc cette vie tourmentée que j'ai évoquée tout au long de ce parcours Chopin, j'arrive à la fin de mon propos. Tout en me disant qu'évidemment le livre Chopin qui est sur ma table de chevet ne sera jamais fermé. Bien entendu, cette Bible des musiciens, on dit que c'est Bach. Oui, bien entendu, mais d'ailleurs Chopin aimait Bach. Ce séjour à Valldemossa sur l'île de Majorque a été très éprouvant pour lui. On sait qu'il y a écrit une partie de ses préludes. Thank you. comme je ne sais pas utiliser les mots pour dire ce que la musique de Chopin a représenté, peut-être sûrement dans le paysage musical, en tout cas pour moi, je préférais jouer ces quelques notes de ce 20e prélude. La santé de Chopin a décliné rapidement. Nous avons un témoignage du peintre Charles Gavard au chevet de Chopin, où il nous raconte que quand la présence de la comtesse Delphine Potocka fut annoncée, il s'est exclamé oh, « Je comprends pourquoi Dieu a tant tardé à me rappeler à lui ». Chopin a exprimé le désir d'entendre une fois encore sa voix bien aimée. Et la malheureuse comtesse, tâchant de maîtriser son chagrin, a eu la force de chanter à côté du lit où son ami exhalait sa vie. Chopin était devenu blond de suffocation. Le docteur Cruveillier nous fit remarquer que les sens avaient cessé d'exister. Mais quand il demanda à Chopin s'il souffrait, nous entendîmes encore nettement la réponse « plus ». C'est le dernier mot que j'entendis sortir de ses lèvres. Il mourut entre 3h et 4h du matin le 17 octobre 49. Nous écoutions une mélodie de Chopin. Un grand merci à Laura Wilson pour ses lectures. Je tiens à remercier bien sûr chaleureusement l'École Normale Supérieure de Musique de Paris qui nous accueille dans sa salle Cortot. L'équipe d'aujourd'hui était composée de Julien Bourdet, Tanguy Le Corneau à la prise de son, Xavier Carrère attaché de production et Max James à la réalisation. Vous retrouverez la programmation musicale sur le site francemusique.fr et vous pouvez également réécouter et télécharger cette émission sur l'application Radio France. Et bien sûr, je vous dis à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.